Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Patrick Pouyanné.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour votre premier grand jury à mes côtés, pour vous interroger aujourd'hui, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour,
bonjour
Guillaume. Et Christophe Jacubizine de TF1.
Bonjour.
LCI. En fin de première partie dans notre rubrique La Question en Plus, c'est Alain Fabre, maire d'une commune de l'Aude, touchée par des inondations, qui vous interpellera, monsieur Pouyanné. Et puis nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL, pour questions nettes, vos commentaires, vos questions au président, directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Vous pouvez toujours réagir en direct, hashtag le grand jury. Alors Patrick Pouyanné, vous êtes un grand patron peu connu, plutôt rare dans les médias, et pourtant vous allez fêter cette année vos 5 ans à la tête de Total. Une mission à laquelle vous êtes longtemps préparé, mais qui vous a été confiée dans des circonstances tout à fait particulières, lorsque vous avez remplacé au pied levé votre prédécesseur disparu tragiquement dans un accident d'avion. C'est une mission que vous remplissez visiblement avec succès. Total vient en effet d'annoncer des bénéfices records pour 2018, plus de 13 milliards d'euros. Mais c'est une mission qui vous oblige aussi. Total est la première société française, si l'on se réfère à sa valeur boursière. Et en cela, les décisions que vous prenez portent dans le débat public. Elles sont observées, saluées, mais aussi critiquées. Le symbole est d'autant plus fort aujourd'hui que le principal produit de Total, le carburant, que l'on retrouve dans les stations, bien sûr, est à la racine du mouvement qui bouscule la France, les gilets jaunes, et de leur colère qui ne s'éteint pas depuis presque 4 mois. Le pouvoir d'achat, la justice fiscale sont justement au cœur des revendications de ces gilets jaunes et qui ne comprennent pas qu'une entreprise comme Total ne profite pas de ses bénéfices colossaux pour faire un geste sur les prix des carburants à la pompe et qu'elle préfère augmenter les dividendes de ses actionnaires. Alors, il y a bien sûr la fin du mois, mais il y a aussi la fin du monde. Et les Français, même les gilets jaunes, ne sont pas insensibles aux questions d'écologie. Et là encore, Patrick Pouyanné, votre responsabilité de dirigeant du secteur pétrolier est engagée. Car pour beaucoup, l'or noir est définitivement synonyme de plomb pour notre planète et donc pour notre devenir commun. De tout cela, nous parlerons dans cette émission. Nous avons du temps et on commence tout de suite par la première question, elle vous est posée par Guillaume Roquette.
C'était hier, Patrick Pouyanné, la 13e journée de manifestation des Gilets jaunes. Il y a dans ce mouvement une vraie hostilité à la mondialisation, voire au capitalisme en général, dont vous êtes l'un des symboles à votre corps défendant. Alors, est-ce que vous vous sentez une forme de responsabilité dans ce mouvement,
Patrick Pouyanné?
Oui, le mouvement n'est pas vraiment dirigé contre les grandes entreprises aujourd'hui. Même si il y a effectivement au fond du débat la question de la mondialisation, et c'est vrai que Total est un de ses gagnants, je crois que quelque part, ce qui se passe dans nos pays développés, c'est que l'on voit des fractures, et notamment des classes moyennes, qui ont vu l'émergence des pays comme la Chine, qui ont... La mondialisation a aidé profondément l'émergence de ces pays-là, et a sorti de la pauvreté beaucoup des populations de ces pays-là, et quelque part, au détriment, sans doute, des gens qui de nos concitoyens dans nos pays développés. Donc il y a une espèce de paradoxe en ce moment. Mmh. Et effectivement, nos classes moyennes dans nos pays ont un peu peur pour leur futur, parce que finalement, la France est un beau pays. Protection sociale y est extrêmement élevée. Mais il y a eu une vague de la désindustrialisation de nos pays au bénéfice de ces pays émergents. Et je pense qu'en fait, profondément, les Français, quelque part, sont inquiets un peu de « mais où allons-nous ? » Alors, il y a une réaction sur laquelle, sans doute, faudra-t-il revenir, c'est se replier sur soi, qui n'est sans doute pas la bonne réaction dans ce moment.
Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets, les Français, vous qui avez une activité dans le monde entier, dans tous les pays ? Est-ce que quand vous regardez la situation de la France par rapport à ces pays émergents, la Chine et d'autres, est-ce que vous ne dites pas, finalement, je viens d'un pays qui est en voie de sous-développement, j'ai envie de dire?
Mais moi, je pense qu'il faut, d'abord, l'inquiétude ne mène nulle part. À la fin, il faut, au contraire, dans toute difficulté, si on est optimiste, il faut trouver une opportunité. C'est ça le défi que l'on a tous collectivement. Mais pour trouver, c'est comme un peu chez Total, qu'est-ce qu'on doit faire demain? Il faut d'abord regarder la réalité en face. Je pense que s'il y a, à mon avis, je dirais, à des leçons. Si tout ce qui se passe en ce moment doit être positif demain, c'est d'une part parce que pour y arriver, il faut le dialogue est essentiel, il faut qu'on se parle. D'autre part, il faut regarder la vérité en face. Et je pense que notre pays vit dans une forme de déni de vérité depuis plusieurs années. Le pouvoir politique en place a voulu prendre des décisions courageuses, mais quand toutes les décisions courageuses arrivent toutes ensemble, bah peut-être qu'il y a-t-il un défaut d'explication
C'est-à-dire
collective.
Vous parlez de l'augmentation des taxes sur les carburants, là, Patrick Pouyanné.
C'est un des exemples, ça.
Oui, mais c'est un exemple important, c'est ce qui a déclenché la colère.
Réalité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on nie, par exemple, nous, les Français ?
Je crois qu'on nie le fait que, justement, si on veut maintenir... il faut qu'on ait un débat sur le niveau de protection collective, protection sociale, qu'on a tous collectif, où on est un des pays où on a le système le plus redistributif au monde.
Vous dites qu'il est trop élevé ?
Il est peut-être trop élevé, et c'est bien ce que je pense les gens ressentent. La question, c'est qu'on ne peut pas à la fois vouloir un système extrêmement redistributif, 800 milliards d'euros distribués en France, et en même temps on nous dit, mais la pression fiscale est trop forte. Donc il y a des choix à faire, on ne pourra pas tout faire, on ne va pas pouvoir sortir de ce débat en disant à la fois on va vouloir moins d'impôts, mais toujours plus de protection. Donc il y a un débat, mais ça il faut le poser sur la table. Et si on doit faire des efforts collectifs, c'est sur quel domaine ? Dans quel domaine devrons-nous faire des efforts ?
Vous, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur quoi il faut faire des efforts en termes de redistribution ?
Je ne suis pas en charge de l'État, je suis en charge d'une entreprise.
Ah oui, mais c'est vous qui êtes entré dans ce sujet.
Mais je rentre dans ce débat parce que je pense que c'est celui vers lequel les Français veulent nous entraîner. Mais alors, pour revenir sur le débat que vous avez lancé sur la taxe carbone, le prix de l'énergie. Ouais. Moi, j'ai pris. Je pense que sur ce sujet-là, il faut que l'on réfléchisse collectivement à quel rythme voulons-nous faire cette transition énergétique. La France a un avantage, c'est qu'on a une énergie pas chère, parce qu'il se trouve que nos anciens ont investi dans l'énergie nucléaire, c'est pas Total qui y est, et que finalement, aujourd'hui, quand je regarde la position du pays de la France en taux d'émissions de carbone par point de PIB, on est un des meilleurs pays au monde. Alors, une fois qu'on a cette position de départ, à quel rythme voulons-nous aller dans la transition
Donc
énergétique ?
Nos gouvernants ont été trop pressés.
Moi, je pense, oui, je le dis, je pense qu'il faut du temps. On ne change pas des systèmes, des modèles énergétiques, tout ça, en claquant de la note. D'ailleurs, je vous signale que l'Allemagne a annoncé vouloir sortir du charbon en 20 ans, en 5 ans, en disant en 20 ans. Nous, on est déjà sorti du charbon quasiment, et on a un avantage compétitif. Donc, je pense que dans tout cela, il faut qu'on arrive à convaincre les Français, pas simplement en montant les taxes, c'est pas en interdisant qu'on y arrive. C'est au contraire, on peut leur démontrer, par exemple, dans le débat des chaudières à fioul, c'est pas leur disant il n'y en aura plus dans 5 ans ou elles seront interdites dans 10 ans. On peut leur démontrer qu'en passant avec des nouvelles technologies, soit de pompes à chaleur, soit de chaudières à gaz, soit de chaudières à bois, ils peuvent faire des économies réelles de l'ordre de 15 à 20% sur leur facture énergétique.
C'est-à-dire que la vie n'aura plus de chaudières d'ici.
Donc si on leur démontre qu'on peut faire des économies, ils vont acheter l'idée qu'on peut faire évoluer leur système.
Vous êtes en train de dénoncer une forme d'écologie punitive ?
Je pense que profondément, l'écologie ne progresse côté des entreprises que s'il y a, quelque part, elle accompagne un mouvement économique et technologique, et côté des citoyens que s'ils la comprennent. Mais d'ailleurs, c'est sur le prix de l'énergie, c'est très vraiment typique. Les Français, ils nous disent quoi ? Oui, on veut une énergie propre, mais il faut qu'elle soit pas chère. C'est ça qu'ils nous disent profondément. Et d'ailleurs, ils nous disent même, pas cher, c'est plus important que propre.
Christophe,
on écoute bien les commentaires. Mais donc on doit combiner ces deux cela, et on pourra pas leur imposer une énergie plus chère au nom d'un sujet qui est peut-être qui est majeur, enfin qui est le sujet du climat, mais dont ils ne ressentent pas l'urgence malgré tout immédiatement.
Au fond, vous êtes en train de dire merci aux Gilets jaunes, ils vous ont rendu service finalement en ralentissant le rythme de la transition écologique.
Non, je ne dis pas cela parce que le mouvement des Gilets jaunes porte en lui-même des germes plus inquiétants sur la relation aux institutions. Il ne faut pas non plus, c'est pas cela, je pense que simplement... Comme toujours, si on veut un dialogue, il faut écouter les gens. Le dialogue, c'est pas simplement des cahiers à des doléances. À la fin, il faut aussi écouter et donc réfléchir à la suite de l'histoire. Je pense que, en fait, qu'est-ce qui s'était passé ? Et c'est pas ce gouvernement-là, c'est le gouvernement précédent. Le prix du pétrole, en 2014-2015, s'est effondré. Les États européens, qui doivent faire face à des déficits importants, en ont profité pour augmenter les taxes. Parce que pendant quelques temps, profitant de la chute violente qui était passée de 100 dollars du baril à 50 dollars, le prix de l'essence, vous ne l'aviez pas vu divisé par deux, il avait certes baissé, le gouvernement précédent a commencé à remonter les taxes, et puis le prix du pétrole s'est retourné, à ce moment-là, les Français ont vu quoi ? Au prix de la leur pompe, ils ont vu un prix du pétrole qui était à nouveau plus élevé, et des taxes qui étaient beaucoup plus élevées, voilà ce qui s'est passé. Et tout ça s'était passé sans qu'on le leur explique
mais
vraiment.
Est-ce que c'est parce
sans
que
qu'on le leur explique
est-ce
vraiment.
Patrick Pouyanné, est-ce que c'est parce que aussi nos dirigeants sont un peu déconnectés, qu'ils vont jamais faire le plein à la pompe et que du coup ils se sont dit, tout ça va passer très facilement. Est-ce qu'il y a une forme de déconnexion ?
Non, mais je pense que dans cette affaire, il y a l'idée que fondamentalement le peuple ou les électeurs veulent de l'écologie, mais ils oublient que d'abord, ce qui fait que les gens vivent, c'est d'abord leur leur porte-monnaie et que, encore une fois, les dépenses énergétiques, d'abord, quand vous commencez à utiliser votre salaire, eh ben, vous commencez à devoir vous loger, à devoir vous chauffer et vous déplacer. Et si ces postes-là augmentent, trop vite, eh ben, vous avez un problème de pouvoir d'achat.
Vous touchez un des points, des préoccupations numéro un des Français, des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Christophe Jacubizet.
Vous faites 13 milliards d'euros de bénéfices cette année. Peut-être que c'est peut-être stupide comme raisonnement, mais on peut se dire que vous pourriez en profiter pour baisser un peu vos marges sur la distribution de pétrole.
J'ai entendu le procureur faire son réquisiteur, je vais répondre. Notre distribution, faire des bénéfices, c'est obligeant, créer des richesses. C'est l'objectif de toute entreprise. Et après, la question, c'est le partage de ces richesses. Sur la question du prix à la pompe, nous gagnons 1 centime par litre.
Vous gagnez 1 centime par litre de marge.
Par litre vendu, sur chaque litre vendu à un Français, on gagne 1 centime. Donc c'est pas beaucoup. On a de nous-mêmes fait plusieurs opérations. On a notamment créé un réseau qui s'appelle Total Access, qui a eu un énorme succès. On a eu longtemps une politique
où l'essence est moins chère que dans d'autres
stations. Décidé qu'on se mettait, on recréait un réseau de 700 stations à prix bas, mais pas à service bas, à prix bas. Et on a vu effectivement, ce que je disais, le volume de ces stations a été multiplié par 5, ce qui prouve bien que la priorité, c'est d'abord le prix de l'énergie. Et les Français sont venus vers nous, on a regagné des parts de marché. Donc on a eu cette politique, et là dans les bassins on pouvait le faire, notamment autour des villes. Donc on a créé un réseau, et je peux vous dire que d'ailleurs ce réseau a été le premier à répercuter la baisse du prix du pétrole quand le prix s'est mis à baisser au mois de novembre.
Vous allez aussi vite à répercuter la baisse des prix du Brent qu'à la hausse parce
que on a pas fait. Je veux dire, tous les matins, je reçois sur mon bureau un papier qui me montre comment mes réseaux en France répercutent le prix du pétrole et donc je suis la courbe. Je pourrais même vous la montrer si vous la voulez. Donc oui, on le fait. On le fait parce que c'est pas là-dessus. Enfin, encore une fois, à la sortie du lit, c'est pas ça qui fait 13 milliards d'euros de bénéfices de Total. Hein.
Mais ça en fait partie, Patrick Pouyanné.
Mais ça en fait partie, mais
Ah bah oui, mais à ce moment-là, justement, on se dit, pourquoi ne pas aller un peu plus loin, de faire
pourquoi
un
geste. Pourquoi ne pas faire des pertes puisque... ça, malheureusement, ça, si c'est ça que vous voulez
Justement, vous nous dites que c'est une petite partie, mais dans les circonstances actuelles, est-ce que vous dites pas, on pourrait un petit peu rogner, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat, vous êtes le premier à le dire, est un sujet.
Ce que nous avons fait pour répondre, c'est que d'abord, nous en avons fait profiter nos salariés de ces bénéfices, puisque les premiers acteurs des bénéfices totaux sont les salariés du groupe. Donc, on leur a versé une prime de 1500 euros dans le cadre à tous les salariés en France, quels qu'ils soient. Ça, c'est la première réponse. Mais vis-à-vis, j'ai pas pour philosophie de faire des profits, d'avoir des activités qui pourraient faire des pertes pour être compensé par d'autres qui fassent des profits. Ça, c'est pas une très bonne idée. Mmh. Ça a été un peu le cas dans le groupe Total, où on avait tout un secteur qui s'appelait le raffinage, qui était en perte profonde. Et au motif qu'on gagnait de l'argent, on laissait ce secteur faire des pertes. Le résultat, c'est qu'un jour, les gens se sont réveillés, ils se sont dit, mais est-ce qu'il faut qu'on continue à faire du raffinage en France? On s'est dit, non, il faut arrêter d'accepter des foyers de pertes. On doit être capable, également ces activités-là, de les rendre rentables. On s'est retroussé les manches, et maintenant, elles le sont. Ce qui est quand même plus... Et d'ailleurs, c'est important, parce que les salariés qui y travaillent, du coup, ils ont moins peur pour leur futur. Donc ça fonctionne pas.
Pour que l'essence baisse, il faut plutôt que les taxes baissent. Hein, vous dites que c'est ça qui peut marcher. Aussi, le baril et le prix de l'essence est toujours aussi cher. Guillaume Roquette,
le prix du baril
reste, en effet, alors à baisser, je rectifie, mais on se demande, est-ce que ça peut continuer ainsi? Christophe de Margerie fut un temps, disait qu'on pourrait un jour avoir un litre d'essence à 2 euros, Patrick Pouyanné. Est-ce que c'est encore d'actualité,
Peux vous dire que le prix du baril, je voudrais juste vous rappeler, sur les 1,50 que paye aujourd'hui, le baril, c'est 50 centimes, à peu près. Le reste, c'est pas du baril. Il y a un peu de frais de distribution, une dizaine de centimes, mais il y a beaucoup de taxes là-dedans.
Il y a combien de taxes?
Avec la trajectoire de taxes qui était prévue, on était à 2 euros en 2022. Pour vous le dire. Donc voilà, vous l'auriez vu, vous prenez soeur, eu raison, mais pas à cause du prix du baril. Le prix du baril, je ne sais pas le prévoir, j'aimerais bien, mais il est extrêmement volatile. En 2018, il est passé de 50 à 85 pour chuter à 55, il est aujourd'hui à 65. Il bouge beaucoup parce qu'il y a des sujets d'offres de demande, parce qu'il y a des éléments de géopolitique, parce qu'il y a des interrogations sur la demande mondiale, donc c'est un élément, parce que les marchés financiers sont également très secoués, donc c'est une matière première dont le prix est extrêmement volatile, et nous, notre métier d'ailleurs, c'est de faire des bénéfices, quel que soit son prix.
Êtes-vous favorable à la mise en place d'une taxation flottante sur les carburants? C'est-à-dire que quand le prix de l'essence monte trop, les taxes baisseraient pour que le consommateur ne paye pas l'ensemble de la hausse?
Je pense que c'est une voie que... encore une fois, je ne suis pas à devoir donner aucune leçon au gouvernement, puisqu'il doit aussi gérer des équipes budgétaires, mais c'est une voie qu'il devrait suivre. Je pense que l'idée que...
Et pourquoi il ne le fait pas?
Je pense que parce que les taxes sur l'essence alimentent sont une ressource importante pour boucler les budgets de l'État et que c'est une tradition dans notre pays. Alors après, visiblement, les Français disent oui jusqu'à un certain point, quoi. Donc, à mon avis, lier une partie de ces taxes au prix du pétrole pourrait être une façon d'amortir le choc.
Est-ce que les Français ont moins roulé ces derniers temps à cause de...
Oui, oui. Ils ont moins roulé. On a vu une baisse de la consommation de 10% au mois de décembre. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut que quelque part, ce mouvement trouve une fin. Il y a eu un impact sur le fait que les gens ont tendance à rester chez eux. Oui, ça on l'a vu au mois de décembre.
Ça aura un impact sur votre activité aussi en 2019 et sur la croissance économique française globale, vous pensez ?
J'espère que non, hein. Il faut absolument qu'on sorte de ce positivement maintenant de ce mouvement. Et je pense que le dialogue lancé est un bon moyen d'essayer de retrouver le grand débat est un bon moyen d'essayer de trouver des nouvelles voies collectives pour aller vers l'avant. Mais il faut éviter que l'on ait un impact. Mais ça aura un impact parce que tout ça, vous savez, la croissance économique, c'est une question de confiance, une question de confiance des consommateurs, confiance des investisseurs. Donc, mais encore une fois, je pense que il ne faut pas rester focalisé sur la France parce que.
Mais vous, l'image de la France est affectée quand vous allez à l'étranger. Vous dites
ce qui se passe en France interpelle, mais n'interpelle pas nécessairement parce que la France est. Elle interpelle parce que je pense que dans beaucoup de pays, la question, et on a vu ce phénomène, vous savez, le Brexit, c'est une autre forme de gilets jaunes. L'élection américaine, c'est une autre forme de gilets jaunes. Ce qui se passe en Italie. Donc en fait, ce que l'on voit profondément, c'est que cette fracture qui s'exprime en France, avec des classes moyennes qui quelque part disent mais cette mondialisation elle n'est pas pour nous, comment on s'en sort, on la voit apparaître dans beaucoup de pays développés. Donc je pense que les images sur la France est plutôt donc une forme d'inquiétude, d'autant plus que le président Macron incarnait plutôt une forme de renaissance, d'espoir. Donc je pense qu'il y a plutôt aujourd'hui à l'étranger l'idée que ce serait bien que les Français trouvent la voie pour sortir de ce mouvement.
Christophe Jacubizi.
Justement, dans cette crise sociale qui frappe la France depuis plusieurs semaines, et vous le disiez, d'autres pays qui sont en questionnement sur cette globalisation, il y a cette conscience des inégalités, avec une classe moyenne qui a du mal à s'en sortir, et puis certains grands patrons, grandes entreprises qui multiplient, qui accélèrent leur profit et parfois leur salaire. C'est pas forcément votre cas, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a une responsabilité éthique, philosophique maintenant, des grands patrons pour mettre fin à ce sentiment d'injustice ?
Non, mais qu'il y ait et que les grandes entreprises aient une réponse et doivent faire partie du dialogue, doivent rentrer dans ce débat. Nous sommes bien évidemment une entreprise comme la nôtre qui fait les profits que vous avez indiqués, qui est dans 130 pays. On est aussi un acteur de la cité. On peut pas attendre que l'État règle tout. Ça, j'en suis totalement convaincu. On doit rentrer dans ce débat. J'ai d'ailleurs invité les patrons et responsables locaux de mes usines en France à participer, s'ils l'étaient, au dialogue au niveau local. Donc on doit être responsable, on doit prendre des actions pour les territoires. Moi j'ai annoncé que, par exemple, mesure symbolique, mais qui répond, je pense, à une partie des inquiétudes des Français, qu'on ne fermerions plus de stations-service en France et qu'on voulait que tout Français...
Est-ce que vous allez en ouvrir, d'ailleurs? Vous n'en fermerez plus. Est-ce que vous pensez en ouvrir dans des zones rurales qui réclament justement...
Ce que nous allons faire, c'est que nous sommes en train dans les zones... Le cycle total apparaîtra plus dans les zones rurales, puisque nous avons décédé que nous avons un réseau annexe qui s'appelle Élan. Il y a 1300 stations et que la moitié d'entre elles, à peu près, vont être remises aux couleurs totales, notamment dans les zones rurales, pour se rapprocher des gens. Et mon objectif, c'est que 90% des Français s'attendent moins de 10 minutes d'une station de Total. Voilà, pour mailler le territoire. Bon, ça, c'est un engagement simple. Et il faut qu'on se réintéresse à nos territoires. On a d'autres façons de le faire. Investir dans l'éducation, comme nous sommes en train de le faire également.
Et est-ce qu'il faut, par exemple, il y a des partis comme la France Insoumise qui proposent d'avoir une échelle des salaires. 1 à 20, ça peut être davantage, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut réduire cet écart de salaire entre ceux qui gagnent le SMIC et les grands patrons?
Écoutez, le vôtre, Patrick,
moi, je vais vous dire,
transparent, c'est 6 millions d'euros par an.
Je gagne 3,8 millions d'euros en termes de salaire et je reçois des actions de performance. Comme elles sont de performance, je ne recevrai peut-être pas toutes d'ailleurs. Ça dépendra de la performance dans 3 ou 4 ans. Et je paye 43,4% de prélèvement à la source. Et je pense qu'une des éthiques d'ailleurs pour les patrons, c'est d'abord d'être totalement transparent.
Mais sur le
considère que là-dessus, on ne peut pas gagner des montants. Écoutez, comme je l'ai déclaré récemment, si je l'accepte, c'est que je ne vais pas en avoir honte non plus. Sinon, il ne faudrait pas que je l'accepte, il faut que je sois cohérent. Alors après, c'est le conseil d'administration qui fixe le montant du PDG de Total. Ce n'est pas le PDG de Total qui le fixe. Ça, je peux vous le garantir. Je ne participe à aucun des débats. La question pour nous, elle est après de savoir si... est-ce que oui ou non... Alors le ratio, par ailleurs, dont vous parlez, je faisais... comme j'étais sûr que j'aurais la question, je faisais le calcul, on est à peu près à un ratio
très
de...
prévisible.
En fait. Alors le salaire moyen en France d'un employé total, il est à peu près salaire moyen, revenu moyen y compris de l'ordre de 65 000 à 70 000 euros, ce qui d'ailleurs n'est pas
bien payé.
Oui, non mais c'est une belle entreprise qui, vous voyez, les partages de la valeur dans une entreprise, c'est qu'est-ce que je fais d'ailleurs, j'aurais pu recommencer par ça, qu'est-ce qu'on fait de la richesse que nous créons chez Total? On a créé sur les 8 dernières années à peu près 50 milliards de dollars par an, 45 milliards d'euros, je devrais parler en euros. 25 milliards sont repartis dans l'entreprise, enfin 20 milliards sont repartis dans l'entreprise en investissement. Donc d'abord, on investit dans l'entreprise. Et après, on a les salaires, les taxes aux États et les actionnaires.
Vous aviez commencé votre raisonnement, vous disiez 65 000 euros ouais. de rémunération moyenne. C'était pour faire la comparaison avec votre rémunération à vous.
Oui, bah le ratio, ça fait 60. Vous le faites.
60.
60. Bon, j'ai entendu les ministres parler de le plafonner à 200, mmh. donc ça va, j'ai de la marge. Non, mais vous inquiétez pas, on ne l'utilisera pas. Ce n'est pas le sujet.
Vous estimez ne pas être trop payé et vous dites, bon, ben voilà, c'est la règle. Hein, c'est
j'estime être très bien payé.
Ouais.
C'est pas, le trop est à déterminer par le conseil d'administration de Total, le trop ou le trop pas. J'estime être très bien payé et je ne suis pas cher. Je suis pas. Et sincèrement, ce n'est pas parce que je reçois ce salaire que je fais mon travail. Je fais mon travail d'abord parce que diriger une entreprise comme Total, c'est passionnant. Et que c'est pour entraîner l'entreprise. C'est pour faire donner un futur à cette entreprise que je travaille jour et nuit pour Total. C'est pas parce qu'on me paye. C'est... Alors, mais vous pourriez me dire, donc, vous pourriez avoir moins. Oui, si on m'enlève 500 000 euros, ça ne changera rien. Ou un million d'euros, ça ne changera rien.
Vous comprenez que ça puisse interpeller.
Ah, mais je comprends que ça puisse interpeller. Je l'accepte très bien.
Mais c'est un débat légitime ou c'est un débat dépassé
c'est un débat qui est très français. Qui est très lié au rapport que nous avons en France à un certain nombre de valeurs, l'égalitarisme, dont on pourrait s'interroger des conséquences qu'il a par rapport aux jeunes Français qu'il a.
Mais vous dites
qu'il y a un débat qui est aussi lié au fait qu'on ne veut pas parler d'argent dans notre pays. On n'ose pas dire de ce que je suis en train de dire. On ne veut pas en parler, et donc on n'est pas transparent, on donne l'impression qu'on cache des choses. Et donc, à partir du moment où on est transparent, on a un débat qui devient émotionnel et qui a du mal à être, à regarder les faits, à se poser des questions. En l'occurrence, ce n'est pas un argument, je dois être le patron parmi les 5 majors pétroliers, mon salaire est à peu près ridicule, quoi, 2 fois moins que celui que tu... Mais ce n'est pas une question, parce que là encore, puisque le conseil d'administration m'a donné mon point de vue, j'aurais dit votre référentiel, c'est la France. Moi, je vis dans un univers français, je dirige une entreprise française, donc vous devez l'apprécier.
Et vous payez vos impôts en France, évidemment.
Bien évidemment, je paye tous mes impôts en France, soyons clairs, je peux vous le dire. Je considère là-dessus que je soutiens la demande du président. Je pense que tout patron d'une très grande entreprise française cotée en France, dont le siège est en France, doit payer ses impôts en France.
Est-ce que vous trouvez que vous
êtes domicilié en France
Il doit être domicilié fiscalement en France. Il y a divers débats, mais je pense que d'ailleurs, la grande majorité des patrons français le sont dans ce cas-là. Donc,
mais comme toujours, sur ces sujets-là, l'idée, c'est aussi de demander aux membres du conseil d'administration d'être aussi résident fiscal en France.
Non, parce qu'un membre du conseil d'administration, heureusement, moi, dans un conseil d'administration total, il y a des étrangers. Hein, il y a des... Et heureusement, parce que
Ils n'ont aucune envie d'être en France.
Et si je leur demande d'être fiscalement en France, j'ai peur de ne pas avoir beaucoup
de... C'est une mauvaise idée.
Mais une entreprise mondiale, donc moi, au contraire, j'accueille des gens venant de Belgique, d'Afrique du Sud, d'Australie, etc. Donc,
mais ce que vous nous dites, Patrick Pouyanné, globalement, c'est que la France a encore un problème avec la réussite, avec la richesse.
Oui, je pense. Et qui est un débat qu'on devrait avoir. Oui, on a ce problème-là. Et c'est
alors
dommage.
Emmanuel Macron voulait réconcilier la France cette réussite.
Ça, c'est très ancré dans une culture. Je reviens à l'égalitarisme de notre révolution. On voit toujours l'idée que l'égalité, et au nom de l'égalité, on décide que l'éducation nationale est la même dans tous les collèges et lycées de France, alors que peut-être dans des banlieues, dans des quartiers défavorisés, il faudrait peut-être adapter à la culture des gens qu'on y a. Il y a quelque chose de profond caché derrière tout ça qui est aussi lié à la religion. Mais on ne va pas philosopher là-dessus. Donc je pense que oui, on doit réconcilier. Et par exemple, sur les grandes entreprises françaises, mais c'est je pense qu'un des atouts de notre pays, c'est qu'on a de très belles grandes entreprises françaises. Vous prenez le classement des 500 plus grandes entreprises au monde, vous avez plus d'entreprises françaises que d'entreprises allemandes. Et bizarrement, nous sommes vus, moi quand je sors du pays, les gens nous considèrent comme un fleuron de la France, comme finalement une réussite de ce pays. Et c'est en France qu'on a un débat vis-à-vis des grandes entreprises. Je rappelle que si on prend les 100 premières grandes entreprises françaises, elles représentent à peu près 13% de l'emploi et 19% des taxes.
Mais est-ce que, très concrètement, on l'entend dans la rue, les Gilets jaunes et les Français majoritairement réclament le retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Est-ce que vous comprenez cette revendication? Est-ce que d'ailleurs vous le payez, vous, Patrick Pouyanné,
l'IFI? Oui, je payais l'IFI. Je paye l'IFI. Oui, il se trouve que j'ai une maison. Oui.
Alors, est-ce que vous pensez? Est-ce que alors?
Mais honnêtement, le débat sur l'ISF, à mon avis, il y a eu là-dessus. D'abord, le vrai sujet sur l'ISF, c'était la question de l'outil de travail. des gens, des entrepreneurs, pas du patron de Total, qui est un salarié, qui à la fin est un salarié, c'est les entrepreneurs, le problème de la transmission des entreprises, qui ont une fortune, et donc il y avait une taxation de l'outil de travail. C'était ça le vrai débat. Est-ce qu'il fallait changer le nom d'ISF en IFI ou garder le nom d'ISF? Je pense qu'on aurait gardé le nom d'ISF en enlevant simplement l'outil de travail. Le problème de fond était réglé et on n'aurait pas tout ce débat. Mais on avait déjà vécu, Jacques Chirac l'avait vécu oui, en 85, l'IGF était devenu ISF, oui. Était disparu, ISF, donc on revit la même chose. Mais c'est des symboles, ça veut dire que les symboles, mais ça c'est aux leaders politiques du pays de gérer ces symboles. C'est pas au... Moi sur le fond, écoutez, c'est pas, je pense que ce que je viens de vous dire, je vais vous dire la vérité, c'est que le taux de prélèvement à l'impôt sur le revenu est bien, bien supérieur, pour ce qui concerne le patron de Roland, 43% de 4 millions d'euros par rapport à l'ISF que je payais, qui devait être de 25 000 euros. Donc c'est un sujet qui n'a rien à voir.
L'argent que vous avez pu économiser, vous, est-ce que vous l'avez réinjecté dans l'économie française? C'était l'objectif, c'est l'objectif encore aujourd'hui de cette mesure.
Bon, ça c'est là, vous rentrez dans les questions personnelles. Qu'est-ce que je fais de l'argent qui est la mienne? Je peux vous dire qu'une partie de mon argent, j'en fais des dons à un centre d'institutions, notamment d'éducation. Une partie est effectivement, puisque je trouve que mon salaire est important, réinjectée dans des fonds qui gèrent des sociétés françaises, des fonds de private equity, etc. Donc oui, une partie de mes ressources vont vers l'économie.
Bon, on passe à la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur Pouyanné. Alain Fabre, maire de Bizeux-Minervois, commune du Grand Narbonne dans le département de l'Aude. Bizeux-Minervois fait partie du collectif des 14 communes et 4 ONG qui envisagent une action en justice à l'encontre de Total si vous ne respectez pas l'accord de Paris sur le dérèglement climatique. Total est un acteur majeur de ce dérèglement climatique. Ma commune a subi 4 millions d'euros de dégâts liés aux catastrophes naturelles en 20 ans, sans oublier les drames humains dans le département. Sur 13 milliards de bénéfices, vous avez distribué 6 milliards de dividendes à vos actionnaires. Quand allez-vous prendre votre part dans le financement du coût des catastrophes naturelles que subissent les Françaises et les Français? Merci de me répondre.
Patrick Pouyanné.
Bon, la question de Monsieur le maire est multiple.
Assignation prévue au mois de mars.
Oui. D'abord, les communes nous ont écrit un courrier auquel vient un avocat. J'aurais préféré personnellement qu'elles nous écrivent directement. Nous avons donc répondu. Nous avons répondu à ce courrier que, bien d'abord sur ce que nous faisons, fondamentalement, puisque notre stratégie vise à prendre en compte le risque de changement climatique de façon à faire évoluer le portefeuille de produits énergétiques. Et nous sommes rentrés en France dans la production et la distribution d'électricité bas carbone, soit à base de gaz naturel, soit à base d'énergie renouvelable. Donc on agit, on investit cette année, on aura investi 3 milliards d'euros dans ces nouvelles énergies. Donc c'est pas tout à fait dans ces nouveaux électricités bas carbone. Donc on fait. La deuxième question, c'est que vouloir lier le problème de la gestion des catastrophes naturelles, de l'entretien des rivières dans le sud de la France et le changement climatique, c'est peut-être aller un petit peu vite quand même.
Il fait allusion aux inondations probablement.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct entre les inondations et le changement climatique. La troisième réponse, elle est quand même que...
Ça, c'est un peu climato-sceptique, ce que vous venez de dire.
Non, c'est pas climato-sceptique, parce que je suis le premier à reconnaître qu'il y a... Mais dire qu'à cause du changement climatique, on a trouvé la nouvelle cause de tous les malheurs de la planète, c'est aussi peut-être aller un peu vite et justement, peut-être pas regarder la réalité en face.
Alors, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission sur la transition écologique, justement, puisque vous vous y impliquez. À tout à l'heure, dans quelques instants, pour la seconde partie du Grand Jury.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Patrick Pouyanné, président directeur général de Total. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizi de TF1 LCI. Nous avons commencé à parler de transition énergétique dans la première partie de cette émission. Patrick Pouyanné, vous nous avez dit que vous impliquez avec un investissement important. Mais vous continuez à forer, à trouver, à chercher des hydrocarbures et vous l'avez fait encore récemment, vous l'avez annoncé jeudi, vous avez découvert une source d'hydrocarbures importante au large de l'Afrique du Sud qui a été aussitôt saluée par le gouvernement de Pretoria comme un coup de pouce potentiel, je cite, à son économie en difficulté. Mais vous avez eu, au contraire, un tacle de Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie sur Twitter, qui, je la cite, dit « Total annonce une découverte importante de drogue dure ». Voilà comment elle qualifie cette découverte. « Nous devons réduire notre dépendance. La France a voté l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures sur son territoire. Laissons les hydrocarbures là où ils sont, dans les sols ». Voilà le cri du cœur d'une membre du gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Il y a beaucoup de junkies en France.
Pardon ?
Il y a beaucoup de junkies en France.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui, qui veulent utiliser leur voiture, avoir de l'essence, Madame Poisson comprise. Je pense que c'est un sujet sérieux. On ne peut pas faire que de l'incantation. L'Afrique du Sud, si Madame Poisson connaissait sa situation, sa seule ressource naturelle, c'est le charbon. Nous venons de découvrir du gaz naturel. Est-ce que nous préférons que pour se développer économiquement, l'Afrique du Sud utilise tout son charbon ou utilise demain du gaz naturel qui émet deux fois moins de gaz carbonique que le charbon ? C'est un sujet fondamental, c'est un sujet sérieux, l'énergie. On ne va pas faire disparaître les hydrocarbures du mix énergétique dans aucun scénario à horizon 2040-2050. Prenez les études. Alors effectivement, en France, on n'en a pas. Alors on peut faire une loi pour dire qu'on ne va pas en chercher puisqu'il n'y en a pas d'hydrocarbures. Je pense que si on en avait, on réfléchirait peut-être différemment. Donc je trouve que ce sujet est sérieux pour simplement faire de l'incantation et des tweets rapides. D'ailleurs, j'ai suivi les réseaux sociaux, et ils ont répondu pour nous-mêmes à notre place.
Vous l'avez raison, elle n'est pas sérieuse, Brune Poisson.
Non, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est comme quand on déclare qu'il y aura 100% des plastiques recyclés dans 10 ans. Personne n'y croit. Moi, si je fixe des objectifs irréalistes dans l'entreprise, les gens abandonnent pour rien. Faire de l'incantation, des objectifs inatteignables, c'est la non-action, la vérité.
Est-ce que le gouvernement...
C'est un sujet très important que vous avez abordé, donc je vais développer. Ouais. La vérité, c'est qu'on a besoin de toutes les énergies. Et aujourd'hui, dans les pays émergents, à moins que de décider, nous, Français, parce qu'on dirige la planète, que les pays, les peuples de ces pays-là ne peuvent pas accéder au bien-être que nous connaissons, ils vont consommer de l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils ont comme énergie ? Ils ont du charbon, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Pourquoi on va leur dire à eux qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser alors que nous avons développé notre économie et notre pays ?
Vous savez quand même que la situation climatique est quand même...
L'urgence climatique est là, mais attendez, la vraie question pour nous, c'est quels sont les transferts que nous sommes prêts à faire, nous, Français, pour aider les Indiens demain à avoir un développement économique qui soit vertueux. Si nous ne faisons rien et que nous regardons notre nombril en nous faisant sans plaisir, en sortant des lois qui font qu'on n'a plus le droit de chercher de pétrole en France où il n'y en a pas, et croire qu'on fait avancer la planète, c'est faux. La vraie question, c'est combien chacun d'entre nous est prêt à transférer pour que demain, l'Inde, qui a besoin de se développer, évite d'utiliser sa source naturelle qui est le charbon.
Mais alors,
donc
qui
moi, avoir trouvé du gaz naturel en Afrique du Sud, c'est un succès pour Total.
C'est intéressant, vous parlez parce que
c'est bien pour l'Afrique du Sud.
Irréalisable. Est-ce que, par exemple, quand le gouvernement souhaite qu'il n'y ait plus aucun véhicule diesel-essence en circulation d'ici 2050, ça vous paraît complètement démesuré comme ambition, tout comme la fin des ventes de ces véhicules en 2030 ?
C'est ça
l'objectif.
Ce genre de texte,
oui.
Franchement, ils seront là en 2050 ? Les gens qui ont écrit ça. En 1990, la France a édicté une loi qui disait qu'il n'y avait plus de décharges dans ce pays. Il n'y a plus de décharges aujourd'hui, en 2010 ? En 2019, ce n'est pas vrai. Je pense que
c'est quoi, c'est de la
vérité, c'est que j'aurais
fait
faire une loi, je vais vous dire, qui dise, par exemple, quelque chose d'atteignable. Qu'en 2025, tous les véhicules seront au moins hybrides, au moins électrifiés. Mmh. Et ça, c'est atteignable, parce que les technologies existent. Mais donner des objectifs lointains, et pendant ce temps-là, parce que le changement, l'évolution, ce n'est pas une révolution, contrairement à ce que certains veulent faire. Le mot transition, il dit qu'il faut trouver un chemin. On a 20-25 ans pour évoluer. Et si on veut évoluer, il faut trouver les étapes qui sont atteignables, qui vont faire que les Français vont nous croire. Mais simplement dire en 2050, il n'y aura plus de véhicules au diesel, on ne sera plus là, donc on verra bien ce qui se passera. Moi, je pense qu'il aurait été plus intéressant pour nous tous de se donner une première étape atteignable. 2025, je vous dis, on doit pouvoir faire en sorte que tous les véhicules de ce pays pourraient être pas tous électriques à 100%, mais électrifiés. Et donc là, on fait avancer les technologies.
Pendant qu'on en est aux objectifs, remplacer toutes les chaudières à fioul, c'est atteignable ou pas atteignable ?
C'est atteignable en 20 ans, oui, je pense.
Pas en 10 ans.
Pas en 10 ans.
Non, pas en 10 ans. D'ailleurs,
comme le gouvernement
le ministre avait pris le soin de dire que c'est un objectif ambitieux. Il est prudent.
C'est atteignable. Ça veut dire qu'il y croit pas lui-même ?
Quand il dit que c'est un objectif ambitieux, ça veut dire qu'il prend des précautions. C'est ce que je ne fais que... il se trouve que le langage diplomatique ou le langage politique, c'est ça. On peut le traduire en français. Non, mais la vérité, c'est que c'est un bon sujet. Le marché des chaudières au fioul, il décline naturellement de 3 à 4% par an. Donc la question, c'est de savoir comment on peut un peu accélérer. Mais pour accélérer, vous avez quand même 3,5 millions de personnes qui se chauffent au fioul dans ce pays. 1 million, 1,5 million sont raccordables assez facilement au gaz naturel. Faisons-le. Ça, c'est pas très compliqué, des réseaux de gaz. Il faut simplement, pour chacun d'eux, faire un investissement dans des nouvelles chaudières, c'est à peu près, disons, entre 8 et 10 000 euros. Il faut être pragmatique, il y a des aides, on est prêt nous-mêmes, Total, à aller compléter les aides par des prêts aux particuliers, et surtout, on peut leur démontrer, mais c'est compliqué, c'est complexe, parce que quand vous dites à une personne en province, vous allez changer votre chaudière au fioul, mais moi, je ne sais pas, quand on me dit ça, je commence à... Comment je fais ? C'est compliqué, c'est le cœur de mon domicile. Donc, il faut les aider sur le chemin, on peut leur démontrer... Encore une fois, qui peut faire des économies sur leurs factures en passant par exemple à des pompes à chaleur ou des chaudières au gaz ou des chaudières au bois, qui à peu près 20% par an, qui peuvent faire en sorte que sur 5 ans, ils vont rembourser le prêt qu'on va leur faire. Donc en gros, ils peuvent rien débourser originellement si on leur fait l'avance. Les 5 ans d'économie vont rembourser l'investissement et après, ils bénéficieront.
Mais Patrick Pouyanné, vous dites,
tout ça, c'est compliqué.
Vous dites que globalement, que le gouvernement est trop ambitieux. Est-ce que vous l'êtes suffisamment dans la transition écologique? Parce que vous dites que votre croissance, vous voulez devenir le major de l'énergie responsable, je vous cite, mais votre croissance annuelle de la production d'hydrocarbures sur la période 2016-2022, c'est plus 5%. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que vous investissez suffisamment dans les énergies renouvelables? Est-ce que ce sujet est vraiment, vous restez un des pollueurs les plus importants au monde, est-ce que vous n'estimez pas que vous dites on pourrait faire davantage encore sur les énergies renouvelables?
Total n'est pas le pollueur le plus évolué, n'est pas un des pollueurs les plus importants au monde. D'abord, premièrement, je voudrais remettre une chose. Un, le changement climatique, c'est sérieux. Et nous inscrivons toute la stratégie de Total dans le fait que nous devons être responsables et prendre en compte cela. Mais notre mission, notre raison d'être, pour répondre à un débat à la mode, c'est d'apporter au monde, et pas seulement aux Français, au monde, l'énergie dont il a besoin. Une énergie qui soit pas chère, abordable et qui soit propre. Et le débat, c'est celui-là. Je vous rappelle que sur cette planète, il y a 7 milliards d'habitants dont 1 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. Et ils en ont besoin parce que c'est un fondamental du développement économique et social pour les sortir de la pauvreté. Donc, aujourd'hui, on a un mix énergétique. Et je sais bien qu'on ouvre les journaux tous les matins en disant qu'il n'y a plus de pétrole. Simplement, 80% de l'énergie mondiale aujourd'hui, c'est des énergies fossiles. Et les énergies renouvelables, c'est 2%. Alors, si on prend l'hydro, c'est plutôt 8% à 8%. Donc, c'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et si tout d'un coup, il n'y aura pas de grand soir, il y aura une évolution de ce mix énergétique. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous voulons, et nous sommes responsables, nous avons pris le scénario dit 2 degrés, si on suit l'accord de Paris, pour dire on veut, en 2040, être capable de fournir à nos clients des produits énergétiques dont le compte du carbone moyen va décroître de façon à contribuer positivement à ces scénarios de degrés. Au passage, il y a un accord qui a dit à Paris que l'humanité devait viser moins de 2 degrés. Oui, mais quand vous prenez toutes les contributions des pays, des États, ça ne faisait pas 2 degrés, il faudrait se le rappeler, ça en faisait 3. Donc on demande en ce moment à certaines entreprises d'être plus vertueuses que les politiques que les pays ont mis sur la table.
Christophe Jacubizine.
Encore une question concrète sur l'évolution de notre consommation d'énergie. Le diesel, on a expliqué aux Français depuis plusieurs mois et années que c'était donc dangereux pour la santé. Et là, on a de nouveau un débat. Peut-être que le diesel va se voir, que les véhicules diesel vont se voir appliquer la vignette critère 1, comme les véhicules essence ou comme les... Donc ça pollue ou pas le diesel ?
C'est typique de ce que je disais. À force de faire de l'émotionnel et de ne pas faire la pédagogie des faits, on en vient à prendre des décisions qui sont irrationnelles et qui sont mauvaises. Que le diesel, il y a 20 ou 25 ans, émette des particules, on le savait. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, les pétroliers n'étaient pas favorables du tout à cette politique. Cette politique a été promue en France pour des raisons de fiscalité sur les poids lourds et les constructeurs automobiles français, parce que les Français, quelque part, voyaient une différence de 30 centimes ou 40 centimes entre le prix du diesel et le prix de l'essence, se sont engouffrés, ont développé des moteurs au diesel qui se sont énormément améliorés. Le paradoxe, c'est que c'est au moment, dans les années maintenant, où on est capable de faire des moteurs au diesel qui n'émettent plus de particules, qui d'ailleurs, sur le fond, sont meilleurs pour le climat. C'est pas la provocation, mais c'est la réalité. Les moteurs à diesel, aujourd'hui, émettent moins de gaz carbonique qu'un moteur à essence. C'est au moment où on maîtrise cette technologie qu'on décide qu'elle est mauvaise, qu'elle est responsable de la pollution dans les villes.
Encore une décision irresponsable des politiques.
Ah ben je suis désolé, c'est une décision émotionnelle. Mais si les gens regardent les faits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un débat entre le ministre de l'économie et le ministre de l'écologie. Et c'est quand même, pour moi, quelque chose qui... Quand je vous disais qu'on sur plusieurs sujets, l'émotionnel l'emporte sur simplement la pédagogie des faits. Moi, pour pouvoir progresser, ce que je fais dans l'entreprise Total, c'est que si on veut être meilleur demain, on regarde quels sont les problèmes que nous avons. Et pas en se racontant une histoire.
À vous entendre, que ce soit sous Emmanuel Macron ou sous une présidence différente, rien n'a changé, alors que ce président nous avait promis qu'il serait en phase avec la réalité.
Non, je pense que beaucoup de choses ont changé. Il a fait face et il a voulu prendre des décisions courageuses. Il faut maintenant, le courage, ça se partage. Alors, le courage, c'est pas simplement prendre des courages en soi-même, il faut après entraîner les autres pour être courageux collectivement. Et c'est ça, à mon avis, le début de la France. Je pense qu'il a mis sur la table plusieurs réformes, peut-être trop en même temps. Je ne sais pas, vous savez, c'est toujours le problème. Quand on réforme, la question, c'est à quel rythme on va. Mais en tout cas, je pense qu'il a clairement donné une impulsion au pays. Et ça, de ce point de vue-là, l'étranger lui en sait gré.
Alors, sur ces réformes, justement, Christophe Jacubizine.
Une question concrète aussi sur ce débat qui est en ce moment sur l'assurance chômage et l'idée d'instaurer un malus pour les contrats courts, le patronat y opposé. Le gouvernement, le président, a dit qu'il fallait instaurer une taxe sur les contrats courts. Vous en pensez quoi, vous?
Les CDD, par exemple.
La réalité, c'est que chez Total, on a un taux de CDD qui est très faible, beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Donc, je suis pas, enfin, je veux dire, c'est pas une pratique
de combien à peu près. C'est combien chez vous?
Ça va être l'ordre de 7% par rapport à une moyenne à 10 ou 12. Mmh. C'est un emploi qui est essentiellement dans la partie manufacturière du groupe et c'est très limité.
Le MEDEF a quand même quitté la table des négociations, ouais, parce qu'il refuse.
Non, je pense que le MEDEF, je suis pas patron du MEDEF, je ne souhaite pas l'être. Je pense que s'il y a un problème de méthode dans tout cela, et encore une fois, ça a à voir avec la pratique du dialogue dans notre pays. Soit on décide qu'un sujet relève d'une compétence de l'État. Que l'État prenne ses responsabilités et décide que le chômage s'est décidé par l'État comme une taxe. Emmanuel Macron veut une politique, il l'applique, pour autant que le Parlement le suive. Soit on décide que ce sujet est l'objet du dialogue entre partenaires sociaux, et donner la réponse aux partenaires sociaux avant d'avoir commencé, c'est quand même un peu bizarre. Leur dire, nous souhaitons que vous trouviez des moyens ensemble d'éviter, parce que ce qui est insupportable à mes yeux, c'est le système aujourd'hui où certaines entreprises, disons, plutôt dans certains secteurs de services, font 15 jours de CDD, 15 jours chômage, 15 jours CDD. On les appelle les permittants.
J'ai et profitent du système d'indemnisation.
Ça, c'est pas possible. Ça, y a un abus. Bon, mais alors de là à taxer toutes les entreprises de France, y compris celles qui font leur travail normalement, avec une règle du jeu qui est proposée, qui est absolument absurde, puisqu'en gros, on comparait Total, qui est vertueux, à la moyenne du secteur du pétrole, alors qu'en fait, le vrai sujet en question, il n'est pas du tout dans les entreprises manufacturières, il est plutôt dans les entreprises de services. Donc on est en train de poser un problème à toutes les entreprises de
donc
France.
Vous dites, des secteurs. Vous dites,
donc non, je dis, il y a des abus, il faut tuer les abus, mais surtout, il faut faire confiance, moi je pense. Et s'il y a une crise en ce moment, c'est aussi la crise de... La démocratie, ça suppose que les corps intermédiaires, et qu'on fasse confiance aux instances représentatives. Sinon, en ce moment,
oui, mais
si on
regardez,
peut faire un lien direct entre le pouvoir et le peuple, ça ne marche
pas. Il y a une réforme du marché de l'emploi qui a été de la loi, la loi travail, l'année dernière, qui était censée favoriser l'emploi, donner de l'air, du souffle aux entrepreneurs, et puis le chômage, il ne baisse pas tant que ça, Patrick Pouyanné. Est-ce que les entreprises jouent le jeu de l'emploi?
Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une réforme aussi structurelle a un effet en 6 mois ou en 1 an? Je vous rappelle qu'en Allemagne, les réformes Hartz et Schröder, il a quitté le pouvoir à cause de ces réformes, M. Schröder, le chancelier Schröder. Et elles ont eu un effet 5 à 7 ans plus tard. Ce sont des réformes structurelles qui changent l'état d'esprit. Ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, moi je peux vous dire, il y a des réformes concrètes. Nous savons chez Total, et encore une fois, nous ne faisons pas de pratique pour le licenciement, mais on sait réorganiser notre entreprise maintenant en 2 ou 3 mois, où il fallait 1 an avec des processus sociaux. Donc j'en vois des bénéfices. De flexibilité.
Donc ça va prendre du temps. Et pas maintenant, sûr qu'on arrive à 7% abus, du chômage, de chômage en 2022, à ce rythme-là.
Écoutez, est-ce que c'est l'objectif présidentiel? Mais c'est toujours pareil. C'est ça que je préfère réformer.
C'est aussi un objectif irréaliste du gouvernement?
Non, c'est normal. Je pense que c'est normal que les gens soient jugés sur les objectifs qu'ils se fixent. Ils ont un horizon de 5 ans, c'est pas un horizon d'un an. Donc il faut aussi leur donner 5 ans. Et 5 ans, on sait que c'est court pour ce type de réforme. Je pense que profondément, ce que doit. L'objectif, et c'est là que ce qui se passe en ce moment peut endommager l'objectif, c'est. Finalement, qu'est-ce qu'on attend du pouvoir? C'est de donner la confiance. C'est la question de confiance. Les réformes, à la limite, enfin, les mesures fiscales, il y en a trop dans tous les systèmes. Mais c'est la permanence, c'est donner confiance. Confiance aux consommateurs et confiance aux entreprises pour qu'elles investissent.
Donc moins de réformes.
C'est ça qu'avait réussi à faire.
Moins de réformes.
Oui, moins de réformes.
Moins de réformes.
Si vous voulez mon point de vue, c'est qu'en France, on passe beaucoup trop son temps à vouloir chaque année changer les lois fiscales. Mmh. Alors que vous savez, un investisseur, ce qu'il veut, c'est de la stabilité.
Est-ce qu'il veut une dégressivité de l'allocation chômage, par exemple? Est-ce que ça, c'est un autre débat? Est-ce qu'il faut donner moins aux chômeurs pour que, prétendument, ils aillent plus rapidement sur le marché de l'emploi?
Moi ce que je pense, c'est qu'il faut un système qui soit incitatif au retour à l'emploi. Et qu'il n'est pas normal que dans notre pays, des personnes qui travaillent puissent se retrouver à gagner moins à la fin que quelqu'un qui est au chômage.
Je pense
qu'il y a une injustice profonde. Ouais. Je ne suis pas le spécialiste de ces questions-là, encore une fois, mais je pense que profondément, il faut que la valeur travail soit reconnue dans le pays.
Vous avez du mal à recruter chez Total en France?
Non, nous n'avons pas de mal à recruter chez Total, non. Les 13 milliards de bénéfices, quelque part.
Il y a suffisamment de gens qualifiés que vous trouvez sur le...
Nous trouvons les gens qualifiés. J'ai eu un débat, d'ailleurs, c'est intéressant. Hier, on était avec l'ensemble de patrons du CAC 40 à rencontrer les PME de France dans le cadre d'une opération organisée par l'Association des grandes entreprises. Il y avait 400 patrons de PME et l'un d'entre eux, en face de moi, il était en Normandie. Je lui ai dit, tiens, par ailleurs, est-ce que c'est vrai que vous avez du mal à recruter? Il m'a dit, oui, j'ai du mal à recruter. Et donc, ce que je me rends compte, c'est que, alors que nous, on ne vit pas ce phénomène, alors on peut le vivre dans quelques domaines comme le digital, où clairement, c'est un secteur où explose. Donc là, on est en concurrence directe avec des entreprises du secteur informatique où on peut avoir un peu plus de mal. Mais et visiblement, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on manque aujourd'hui de formation, il me disait, d'ouvriers qualifiés, voire de techniciens qualifiés pour irriguer Les PME françaises. Alors peut-être parce que c'est lié à moindre intérêt des jeunes pour ces métiers-là. Pour ça que d'ailleurs, je me suis fait l'avocat beaucoup de l'enseignement professionnel. Parce que je pense que c'est un moyen redonner des emplois aux jeunes, y compris pour alimenter.
Vous allez d'ailleurs ouvrir une formation, bientôt une école de l'industrie. Oui. Christophe Jacubizine.
Une question sur les 80 km/h. Ça semble faire partie de ces décisions du d'en haut, non concertées.
Je pense que, en tant que. La première valeur du groupe Total, c'est la sécurité. Donc je ne peux être que favorable aux mesures qui ont lieu à la sécurité des gens. Par contre, je pense que cette mesure est venue d'en haut, n'était pas préparée. Et elle est sans doute bonne sur le fond, elle n'était pas préparée. Et c'est peut-être une de celles qui a fait que la goutte d'eau a débordé le vase. En tout cas, je suis frappé, y compris dans mes repas dominicaux, dans ma famille, du fait que c'est un sujet qui vient sur la table. Donc visiblement, ça a été quelque chose qui a été mal vu. Quand je pense que la réforme. Je pense que quelque part, c'est pour le bien des gens. Vouloir faire en sorte de maîtriser la vitesse, 80 à l'heure, c'est une limite qu'on voit dans beaucoup d'autres pays, par ailleurs. Donc faut pas non plus. Bon, mais là, elle est venue, je pense qu'elle en a rajouté. Elle est rajoutée dans un. Quelque part, parce que, encore une fois, c'est une mesure qui a. Et en plus, non seulement ils nous disent que notre voiture, elle n'est pas bonne, que notre essence. Mais en plus, on n'a plus le droit de rouler comme on veut, nous, en province. Donc je pense qu'il y a eu une goutte d'eau. Donc là-dessus, ouais. Mais ça, c'est au pouvoir, encore une fois, de le décider. Je pense que c'est une question de méthode.
Pas que des bonnes décisions à vous entendre. Juste une question sur le gaz de schiste très concrète. Non, vous avez dit très franchement. Est-ce que vous demandez toujours à exploiter du gaz de schiste en France ou à tenter d'en trouver est-ce que c'est définitivement enterré?
Non, moi, je n'ai jamais demandé. Moi, je respecte la loi de la France.
Mais est-ce que
la
vous
loi
pensez,
de la France, la loi de la
là
France.
Aussi, il n'y a pas d'expérimentation. Est-ce que vous dites, là aussi, c'est une décision absurde?
Il y a deux facettes. Le PDG de Total respecte les lois, et puisque je ne peux pas le faire en France, je produis du gaz de schiste aux États-Unis, en Argentine, et là où j'ai le droit de le faire, là, je respecte la loi du pays. Le citoyen, je suis, trouve ça dommage qu'au pays de Descartes, on ne soit pas capable d'avoir un débat rationnel et de simplement, avant de bannir, parce que dans cette affaire, on n'a même pas voulu savoir si on en avait. C'est quand même extraordinaire. On décide, alors qu'on aurait pu au moins savoir, parce que si ça se trouve, je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas trop insisté, il n'y en a pas. Simplement, on a un débat de fou sur un truc dont on ne sait pas la réalité. On ne veut pas regarder les faits. C'est quand même dommage dans une démocratie.
En revanche, au
XXIe siècle, de ne pas savoir si on a.
En revanche, vous avez foré aussi en Guyane, et là, autre dossier sensible, on vous reproche d'aller polluer en Guyane. Malgré des avis défavorables d'associations.
Des avis défavorables d'associations, y compris d'ailleurs de certaines personnes, anciens ministres, qui ont dit que notre permis était illégal, et le tribunal de Cergy Pontoise, mais ça, les médias n'ont pas beaucoup
fait. Quel ancien ministre?
Madame Royal, Madame Lepage, et y compris d'ailleurs la présidente de l'autorité indépendante qui gère le débat public, qui a dit que notre permis avait été autorisé contre la loi sur le débat public. Les tribunaux viennent de juger, d'ailleurs heureusement, que ce n'était pas vrai. Et ça, on ne l'a pas dit beaucoup. Donc on fore en Guyane, pour l'instant on ne pollue pas, on fait un puits. Et puis on aura encore soit le puits, le forage que l'on fait va être positif, on aura l'occasion de débattre si on veut ou non produire les hydrocarbures, soit il va être négatif, et le débat sera clos. Et donc, on n'aura pas besoin de s'énerver pour rien entre nous. Donc, on en saura ça dans les prochaines semaines.
C'est l'heure de Question Nette.
Le grand jury, Question Nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Patrick Pouyanné. Alors, les internautes veulent vous interpeller sur l'huile de palme. Alors, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions. Elle est tenue en partie pour responsable de la déforestation. Et fin décembre, les députés de l'Assemblée nationale ont voté la suppression d'avantages fiscaux sur les biocarburants qui contiennent de l'huile de palme. Donc c'est un coup dur pour vous, parce que Total avait prévu d'en importer jusqu'à 450 000 tonnes d'huile de palme pour la nouvelle bioraffinerie de la MED dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet avantage fiscal pour votre usine?
La réponse est oui. Alors là, c'est vraiment le débat typique.
Décidément.
Qui revient, émotionnel.
Il
n'y
aura
rationnel.
Pas beaucoup de satisfaits.
Mais en ce moment, ça relève de la guerre de religion. C'est comme le gaz de schiste pour moi, c'est pareil. Est-ce que vous savez combien l'huile de palme mondialement est utilisée pour faire des biocarburants, la production mondiale? 1%. L'huile de palme, c'est un produit qui est d'abord à vocation alimentaire. Et les pays du Sud le produisent, d'ailleurs, ceux qui l'utilisent pour des façons alimentaires, c'est les pays du Sud. Ce n'est pas les pays OCDE, ce n'est pas Nutella, ça ne fait pas tant que ça. Ça sert 80% pour des usages alimentaires, 19% pour des cosmétiques, ça, peut-être que les femmes des pays occidentaux l'utilisent, et 1% pour les biocarburants. Donc, lier biocarburants et huile de palme et déforestation, c'est un cheminement qui va intellectuellement assez vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que l'alternative à l'huile de palme, c'est le soja ou le colza. Pour faire une tonne d'huile, puisque ce qui nous intéresse, c'est le corps gras, qui va permettre de faire un carburant, un biocarburant, il faut 8 fois plus de surface cultivée pour faire du soja et du colza pour que faire de l'huile de palme. Donc les spécialistes de la biodiversité, avec lequel discute, nous explique que l'huile de palme, pour autant qu'elle soit bien cultivée, c'est 8 fois moins dommageable potentiellement en termes de biodiversité que du soja et du coca. Ça, c'est un deuxième fait.
Mais vous, Patrick Pouyanné,
c'est pas moi qui dis,
le gouvernement vous a soutenu sur cette usine, mais les députés ont voté un amendement contraire.
Je continue. Troisièmement, le projet en question, il est quand même exemplaire. On me dit, il y a une loi, vous ne pouvez plus faire d'hydrocarbures, de diesel, dans 2040-2050. Donc, nous décidons d'investir en France pour transformer une raffinerie qui a le mauvais goût de faire de l'essence et du diesel, puisqu'il paraît, en bioraffinerie pour faire des biocarburants. Donc, j'ai l'impression que ce projet, il est en plein
dans votre cahier de doléances. C'est dans votre cahier de doléances.
Oui, à la fin, le gouvernement a soutenu ce projet. Ouais. Y compris Mme Royal, d'ailleurs. Je vous invite à relire les débats à l'Assemblée qu'il y a eu en 2016.
Donc vous demandez quoi au gouvernement?
Et donc, je demande simplement que les règles européennes s'appliquent également à la France. Parce que tout ça, encore une fois, nous sommes des biocarburants dans un contexte européen. Bruxelles est en train d'émettre, il les a émis cette semaine, des règles qui disent à quelles conditions utiliser l'huile de palme en Europe, qu'il soit durable, qu'il soit certifié. Non, c'est important, qu'il soit certifié responsable. Oui. Non, attendez, vous m'avez coupé, je veux aller au bout de ce raisonnement. Et dans 10 ans, on aura 10 ans pour en sortir en acceptant de l'huile de palme responsable. Ce que je demande simplement au gouvernement, c'est d'appliquer en France la règle qui va être édictée à Bruxelles. On ne peut pas passer notre temps à dire dans ce pays qu'on veut le réindustrialiser. Il y a quand même, à l'époque, et si je fais ce combat, et je le mènerai jusqu'au bout, y compris avec les parlementaires, il y a quand même 1000 emplois directs et indirects sur le bassin de Marseille. Alors il va falloir qu'on choisisse dans notre pays. Si ce qu'on veut, c'est, au nom d'une guerre de religion qui n'est pas fondée, interdire de pouvoir avoir une activité rentable, ou bien si on veut quelque part accompagner cette transition écologique. Donc voilà, sur ce sujet-là,
on débat n'est pas clos. Clair et c'est cash.
Il y a eu un amendement voté et on continuera à se
Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors l'autre sujet, ça concerne évidemment Donald Trump. C'est difficile de vous parler des réseaux sociaux sans l'évoquer. Votre retrait d'Iran, justement, est une conséquence directe des tensions entre Donald Trump et l'Iran. Et vous avez déclaré que ça vous avait fait perdre 35 millions d'euros. Donc c'est une perte assez modeste quand même, quand votre groupe investit près de 13 milliards d'euros par an. Mais bon, si vous perdez 35 millions d'euros à chaque fois que Donald Trump tweet, ça va commencer à être compliqué. Est-ce que ça vous fait peur, la politique de Donald Trump ?
Non, c'est parce qu'il a pris une décision beaucoup plus profonde. Il a décidé que toute entreprise qui travaillerait avec l'Iran pourrait être coupée du monde américain. Je ne sais pas gérer un groupe comme Total si je n'ai pas accès au monde financier américain. C'était un risque systémique pour le groupe. Donc je n'avais pas le droit de le faire. Ce qui est dommage dans cette affaire... Nous étions revenus en Iran parce qu'il y avait cet accord sur le nucléaire qui avait été pris. Ce qui est dommage, c'est qu'il ait décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire et que les pays européens n'aient pas réussi à le convaincre. Nous espérions, en ayant déjà commencé à travailler en Iran, pouvoir obtenir une exemption de sanctions. Il en a pas été question.
Sur Donald Trump, justement,
c'est la force de l'Amérique. À partir du moment où l'Amérique utilise la force de son système financier comme une arme pour imposer son point de vue au reste du monde.
Alors, justement, quand
l'Amérique installe un rapport de force avec la Chine, par exemple, commercial, elle a raison, c'est comme ça qu'il faut faire.
Je pense qu'il a eu raison, quelque part, sur ce sujet-là. Je pense que nous avons fait rentrer la Chine dans le cadre de l'OMC dans l'année 2000, pays émergent, elle en a beaucoup profité.
Dans le commerce
mais quelque
mondial.
Part, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. L'OMC, c'était un club de pays qui, quelque part, respecte l'état de droit. Il y a des règles du jeu de non-subvention aux économies. En Chine, c'est une économie d'État, Chine, qui n'est pas accessible à tous les investisseurs de la même façon et dans lesquelles il y a, on le sait, dans un certain nombre de secteurs, on l'a vu sur les panneaux solaires, et je sais que l'industrie des panneaux solaires dont ils ont parti en a souffert, des subventions d'État massives. Donc, je pense qu'il faut maintenant qu'on se pose la question. Il est normal qu'on ait le débat avec les Chinois, qui est quelque part... C'est quoi les règles du jeu du commerce mondial? Et ça, je pense que c'est important.
Autre message que vous adressez.
Qu'on doit avoir. Oui. Par rapport aux gilets jaunes, aux gens qui nous disent, est-ce qu'on va complètement se faire submerger?
Eh bien, il vous a entendu, Patrick Pouyanné. En tous les cas, vous avez été là pendant une heure. C'est le terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Très belle semaine à tous. À la semaine prochaine.